15h14, eh bien, merci d'être avec nous pour le retour en force. On est avec vous, bien sûr, jusqu'à 17h. Olivier, je lisais dans le journal en fin de semaine qu'il y a eu une augmentation vraiment substantielle des cas d'anorexie, des boulimies. On va aller en jaser avec M. Jérôme Tremblay, sexologue et coordonnateur clinique à Anorexie et Boulimie Québec. Bonjour M. Tremblay, ça va bien?
Ça va bien, vous, merci.
Oui, donc, selon l'article du Journal de Québec en fin de semaine, est-ce que c'est vraiment vrai sur le terrain qu'il y a eu une très forte augmentation des cas d'anorexie, plus particulièrement les cas qui aboutissent à l'hôpital, là, les cas sévères?
Oui, totalement. Là, je dirais que depuis le début de la pandémie, c'est quelque chose qu'on observe dans les services puis qu'on observe aussi chez nos partenaires là, quand on parle des centres hospitaliers dans le milieu de Montréal, à Québec également. Vraiment là, une forte augmentation au niveau des demandes de services, des demandes d'aide et des cas qui nécessitent une hospitalisation également.
Donc, si on regarde un peu, pouvez-vous un peu démystifier là, la différence vraiment entre anorexie, boulimie et autres troubles alimentaires?
Oui, totalement. Donc, quand on parle d'anorexie, on va parler vraiment là, d'un poids qui est significativement bas puis qui va être atteint par restriction alimentaire. Donc, le fait de restreindre son alimentation, d'arrêter complètement de manger, par exemple, en faisant de l'exercice plutôt excessif également. Au niveau de la boulimie, on va parler de crise alimentaire, donc vraiment l'absorption d'une grande quantité de nourriture, mais qui va être compensée par la suite. Donc, par des moyens compensatoires comme l'exercice physique, les vomissements induits, par exemple, l'usage de laxatifs, etc., au niveau des moyens compensatoires. Puis, il y a également là, un autre diagnostic officiel qui s'appelle l'accès hyperphagique, donc qui sont des crises alimentaires, mais qui ne sont pas suivies là, de moyens compensatoires. Donc, c'est vraiment les crises alimentaires qui surviennent de manière récurrente dans la vie de la personne. Puis, évidemment, ce qui accompagne ces trois troubles-là, c'est la grande souffrance, les traits psychologiques là, qu'il y a autour de ces comportements-là.
Donc, qu'est-ce qui a augmenté dans la dernière année? Est-ce qu'il y a eu des changements de comportement ou c'est juste plus fréquent, les demandes?
Mais on observait vraiment, tu sais, je pense que la pandémie a été comme une tempête parfaite, je dis a été, mais elle est encore une tempête parfaite pour ces comportements-là, dans le sens où c'est des enjeux qui sont fondamentalement des enjeux de contrôle. Donc là, on se retrouve dans une situation où on sent qu'on perd un peu le contrôle sur notre environnement, on a des informations qu'on goûte, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, confinement, déconfinement, donc il y a tout ça qui vient couser sur ce sentiment de sécurité-là et de contrôle. Donc ce qui fait que les gens vont avoir tendance à aller, si on est prédisposé évidemment avoir un trouble alimentaire, là, d'aller se requérir dans ces comportements-là, puisqu'ils amènent une certaine forme de stabilité, là, si je peux dire, à la personne, parce que la seule chose que personne d'autre que moi peut contrôler, ben, c'est mon corps. Donc, à ce niveau-là, ça permet d'avoir cette sécurité-là. Puis nous, ce qu'on observait là, depuis le début de la pandémie, c'est vraiment une hausse au niveau des demandes, une hausse au niveau des comportements restrictifs et des comportements de crise alimentaire également. Puis des rechutes également, donc des gens qui s'étaient rétablis du trouble alimentaire préalablement, mais là, la situation actuelle est tellement hors du commun qu'on aurait tendance à retourner dans ces comportements-là là, qui nous procuraient un certain bien-être à quelque part, une certaine sécurité.
Est-ce que vous réussissez à répondre à la demande présentement?
Je vous dirais qu'on essaie en augmentant beaucoup nos services, on a élargi les plages horaires, là, notamment nos services de texto clavardage où les gens peuvent vraiment venir chercher de l'aide rapidement, parler avec des intervenants. Je sais qu'au niveau hospitalier, c'est un petit peu plus difficile là, parce qu'il y a vraiment énormément de demandes, mais je sais qu'ils essayent très fort là, de pouvoir répondre à cette demande-là. Donc vraiment, on essaie de répondre à ça en élargissant les services, en offrant de manière plus fréquente également, là, quand je parle de groupes de soutien, par exemple, tout ce qui est approche communautaire aussi en psychothérapie, au-delà du traitement médical.
Est-ce que de l'argent supplémentaire peut-être d'Ottawa pour, à cause de cette pandémie de COVID-19, que vous devez offrir plus de services, est-ce que vous avez le droit à plus d'effectifs de la part du gouvernement?
Pas nécessairement, je vous dirais. C'est sûr qu'on a eu droit à certains montants là, pour aider au niveau des organismes communautaires, là, notamment au niveau de la rémunération des employés, mais vraiment, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la santé mentale qui devrait être au niveau de la sensibilisation puis des budgets qui devraient être alloués à ce niveau-là pour nous permettre aux communautaires, permettre aussi au milieu hospitalier d'avoir plus de ressources, plus d'effectifs pour pouvoir aider le plus de gens possible qui sont aux prises avec ces problématiques-là, qui sont bien réelles et bien présentes.
Je lisais qu'une spécialiste a dit que le portrait des personnes qui sont anorexiques, boulimiques ou qui ont des problèmes d'alimentation, le portrait dans les dernières années a changé. Est-ce que c'est un peu ce que vous constatez sur le terrain? Ou est-ce que c'est encore beaucoup des 18 ans et moins, les groupes d'âge où le portrait des personnes a changé?
C'est intéressant. Le portrait évolue. Je pense que on commence à en entendre aussi de plus en plus parler. Donc, c'est sûr qu'on associe beaucoup les troubles alimentaires, là, comme l'anorexie, la boulimie, à une tranche d'âge beaucoup plus jeune, adolescente, jeune adulte, parce que c'est surtout dans ces périodes-là que ça se développe. C'est les périodes les plus propices, on tente à être identitaire, la comparaison avec les autres, le physique est très important et tout ça. Par contre, nous, on a vraiment une grande proportion d'adultes, là. Quand je parle, par exemple, moi, dans mes groupes de soutien, la moyenne d'âge pour l'année dernière, c'était environ 40 ans. Là, t'sais. Donc, on a vraiment là, de tous âges qui sont atteints des troubles alimentaires. Je pense que c'est aussi le fait qu'on en entend plus parler. Puis, je vous dirais que depuis que le diagnostic d'accès hyperphagique est arrivé en 2013, le portrait a changé également parce que c'est une problématique alimentaire qui semble toucher beaucoup plus d'adultes également.
Pouvez-vous aller plus en détail sur ce nouveau diagnostic?
Ah oui, l'accès hyperphagique, donc vraiment, comme je vous disais un peu plus tôt, là, les crises alimentaires qui sont non suivies de moyens compensatoires. Donc, il y a une grande détresse au niveau de la perte de contrôle dans l'alimentation. Ce qui est intéressant avec ce trouble alimentaire-là, c'est beaucoup des gens qui vont nous dire qui ont une obsession de la nourriture versus, par exemple, une anorexie boulimie ou ce qu'on entendrait typiquement, c'est quelqu'un qui dirait avoir plus peur des aliments. Là. Donc, une crainte, une phobie de ce que les aliments peuvent leur apporter, le fait que ça fasse prendre du poids. Donc, au niveau de l'accès hyperphagique, on va vraiment parler d'une problématique qui est fondamentalement au niveau des émotions.
Un peu l'expression, là, on mange nos émotions, là, s'il vous plaît.
Oui, exactement. Donc, c'est vraiment le fait que ce soit l'unique moyen de gestion des émotions là, qui devient vraiment problématique dans la vie de la personne.
Si on regarde au niveau régional, vous avez parlé, bon, évidemment, de la région de Montréal, mais c'est quand même un problème qui est aussi en région. Est-ce qu'on réussit quand même à diagnostiquer et à avoir des moyens pour nous, mettons, en Beauce? Est-ce qu'il y a quand même des cas qu'on est capable de trouver du soutien, là?
En fait, je vous dirais que la pandémie a eu, tu sais, ça a eu du mauvais, ça a eu du bon aussi au niveau d'ANEM, par exemple. Ça nous a permis d'offrir des services beaucoup plus en ligne, qui permet de rejoindre des gens beaucoup plus en région éloignée également, qui auraient moins accès à des cliniques spécialisées ou des organismes communautaires, par exemple. Donc, tous nos groupes se donnent en ligne, tous nos services peuvent être accessibles, soit via la ligne téléphonique. Donc, j'encourage vraiment les gens qui en ressentent le besoin à nous téléphoner ou à visiter nos sites Internet pour pouvoir avoir l'information sur ces services-là et obtenir du soutien rapidement là, en termes de troubles alimentaires.
Est-ce qu'il y a aussi, dans certains cas, des gens autour de personnes ou qu'on s'inquiète que cette personne soit anorexique, boulimique? Est-ce que ce sont ces gens-là aussi, parfois, qui communiquent avec vous pour avoir du soutien?
Oui, exactement. Donc, les proches aussi, là, les proches, je parle donc la famille aussi, les amis, puis l'équipe traitante, des fois des intervenants dans d'autres milieux qui peuvent aussi nous contacter, venir chercher des outils, de l'information pour pouvoir mieux accompagner là, la personne qui souffre du trouble alimentaire est un petit peu mieux outillée.
C'est-tu recommandé d'en parler aussi parce qu'on n'est pas toujours justement outillé pour le faire peut-être de la bonne façon comme vos équipes peuvent l'être, mais j'ose imaginer qu'avoir le canal de communication ouvert, ça peut juste faciliter le processus?
Oui, totalement. On encourage vraiment de cultiver le lien là, avec la personne, donc de demeurer à l'écoute des émotions. On essaie d'éviter de parler d'alimentation spécifiquement pour pas essayer de trop renforcer le comportement, mais plus d'aller parler de ce qu'on a observé. Donc, si on remarque que la personne s'isole, est un petit peu plus déprimée, donc on va aller vraiment y aller avec ça, les observations, puis évidemment, après ça, aller chercher de l'aide pour savoir comment mieux le communiquer là, avec la personne qui souffre du trouble.
Vous êtes sexologue. Est-ce que les demandes de cliniques ou plutôt pour les interventions au niveau de la sexologie a augmenté beaucoup aussi avec l'effet de pandémie depuis la dernière année?
Oui, totalement. On l'observe vraiment. Là. Je voudrais que c'est pas mal dans tout le domaine de la thérapie, de la psychothérapie en ce moment. Là, il y a une très forte demande, voire une trop forte demande par rapport à ce qui est comme effectif. Donc, c'est sûr que ça a eu un grand impact là, au niveau de la santé mentale en général des gens, au niveau des demandes d'aide là, pour la thérapie, psychothérapie ou de la relation d'aide dans ces domaines-là.
Et j'imagine que, bon, la pandémie, on sent qu'on commence à voir le bout la lumière au bout du tunnel, pardon, avec la vaccination qui s'en vient, mais ces problématiques-là risquent de sortir, que ce soit plusieurs mois ou même une ou deux années après que la pandémie soit terminée, là, ou je me trompe?
Ben exactement. Je pense qu'on s'attend à un certain effet collatéral là, de la pandémie, post-pandémie, oui, tout ça va être réglé, mais il va y avoir une réinsertion dans la vie aussi sociale là, qui peut avoir des impacts sur la santé mentale. Donc, c'est quelque chose qui va être important de continuer à garder à l'œil, puis d'œuvrer dans le sens de pouvoir offrir un service à ces gens-là qui, post-pandémie, vont avoir besoin, continuer d'avoir besoin d'aide ou que des problèmes vont émerger aussi suite à la pandémie.
Merci beaucoup, M. Tremblay, pour cette entrevue aujourd'hui. On vous souhaite une très belle fin de journée.
Merci à vous.
C'était M. Jérôme Tremblay, sexologue et coordonnateur clinique chez Anorexie et Boulimie Québec. Bien, Olivier, c'est sûr que des dommages collatéraux liés à la pandémie, ça n'est un. Quand je disais ça dans le journal, ça m'a un peu interpellé en fin de semaine. J'ai l'impression que ça va sortir dans les prochains mois, dans les prochaines années. Il va falloir être attentif, tu comprends?
C'est ça.
Ça peut être nos amis, ça peut...
Elle est là, il est là le secret un peu, puis c'est comme ça qu'on peut se protéger l'un l'autre dans une société fonctionnelle, c'est de justement être attentif à tous les signaux. Là, on parle de troubles alimentaires, mais ça peut être toutes sortes de troubles, tu sais, d'apparaître justement. Il a parlé d'une personne qui s'isolerait un peu plus, ben c'est des trucs qu'il faut observer, qu'il faut ouvrir les canaux de communication. Moi, c'est ce que je retiens de tous les experts à qui on peut parler, entre autres sur les questions de santé mentale. Si on est capable d'éliminer la notion de tabou puis d'être capable de se parler, on va éviter bien des situations où on va parvenir à les remarquer plus tôt puis à trouver de l'aide avant, pas qu'il soit trop tard, mais avant de se rendre trop loin finalement dans certaines situations difficiles. Fait que d'être capable d'en parler, de faire tomber les tabous. On les connaît, les troubles alimentaires, on les observe, ils sont vrais, là. C'est pas juste des cris pour avoir de l'attention. On a pas mal tous des proches qui en ont vécu dans nos vies, puis de se porter attention l'un l'autre, d'avoir un peu d'empathie, ce serait bon dans toutes les sphères, mais dans celui-là aussi.
Et comme il expliquait, Anorexie et Boulimie Québec, ben, sont là peut-être pour répondre à vos questions. Si vous avez des doutes ou pour vous-même ou pour un proche ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les appeler. Vous pouvez aller sur leur site web ou appeler au 1-800-630-0907. On s'arrête.